Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Philippe Perrin. Philippe Perrin, cosmonaute ou astronaute, vous choisissez selon le pays que vous voulez habiter. Philippe Perrin donc est allé dans l'espace et qui a écrit un livre passionnant en apesanteur. Dans l'espace, au bout d'un long périple d'opportunités qu'il a su saisir au bon, je dirais. Et là, le voilà donc au centre d'envol de Brétigny. Il apprend son métier de pilote d'essai. Il imagine, il anticipe tous les problèmes possibles. Évidemment, il est confronté, comme beaucoup de pilotes d'essai, à des accidents, des problèmes techniques et parfois des accidents mortels. Deux de ses amis pilotes meurent d'ailleurs. Et donc, ça l'encourage, lui, à devenir très méticuleux, à tout vérifier. Je suppose que dans la navette spatiale, vous avez dû être très méticuleux aussi.
Oui, c'est des métiers, on devient obsessionnel. On n'est pas des gens avec qui on aime partir en vacances. Ouais, vous me mettez sur un bateau, je vais toujours anticiper le pire. Donc quelque part, c'est utile aussi.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas optimiste.
Alors, si, je suis optimiste parce que justement,
après, vous
le
êtes
métier, voilà, le métier, vous... voilà, exactement, identifie les problèmes pour ne pas les
vous
avoir
voulez,
à les confronter.
Vous ne voulez pas être surpris.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Alors, vous faites d'ailleurs une expérience d'apesanteur en avion, et là, c'est un délice. Ce sont déjà les prémices d'un bonheur futur. Et enfin, votre rêve se réalise. Alors là, vous êtes appelé à Houston. Je ne sais pas si je prononce correctement.
Houston. Avec le H,
oui.
On le souffle un peu.
Il y a
Houston.
Toujours, hein, Houston, nous avons un problème. Il y a des phrases mythiques, on a tout ça en mémoire. Et là... Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que vous avez une belle sœur, je pense que c'est la sœur de votre épouse, Sophie,
oui.
Qui a des visions.
Oui, alors, comme je m'étais finalement résolu à tout dire, je parle effectivement de Sophie, qui est quelqu'un qui me dit très tôt, une quinzaine d'années avant que ce rêve américain m'arrive, « Philippe, tu auras une fille américaine ». Je lui dis, écoute, Sophie, non, je ne vois pas pourquoi, mais elle me dit, si, je le sais, je le vois, tu auras une fille américaine. Et c'est finalement en partant aux États-Unis que je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et je vais avoir deux filles américaines, dont une d'ailleurs va garder la nationalité, puisqu'elle vit en Suisse aujourd'hui, et l'autre va la rendre. Donc je suis maintenant, je colle un peu mieux à la prévision, mais j'aurai donc une fille américaine.
D'accord, voilà. Donc... on parle de votre famille, justement, et votre épouse dans tout cela, parce qu'elle suit, forcément.
Alors, elle suit. Quand j'ai présenté l'ouvrage à Michel Lafon, qui l'avait beaucoup aimé, il me parle tout de suite de mon épouse et il me dit, mais votre femme est fantastique.
Ah oui.
Elle est partout, on ne la voit pas forcément toujours, mais quand on en a besoin, elle est toujours là. Et je suis content parce que si j'ai pu rendre ça dans le livre, c'est exactement ce qu'est Cécile, c'est-à-dire une compagne toujours présente, et extrêmement discrète dans la vie, dans tout ce qu'elle fait, extrêmement forte.
Mais elle a dû passer par des angoisses terribles.
Je pense.
Oui.
C'est un très mauvais cadeau qu'on fait à une épouse quand
Donc
on fait un métier.
Vous reconnaissez
risque.
Que vous n'étiez pas un cadeau.
Non, je n'étais pas un
je
cadeau.
Plaisante,
parce qu'elle
je
a...
plaisante.
Non, mais elle a connu mes années de pilote de chasse. Donc, c'était très dangereux. Ensuite, mes années d'astronaute, et on a eu plusieurs accidents. Je suis parti juste avant l'accident de Columbia, quand j'ai quitté les États-Unis. Et puis...
Attendez, vous avez dû vous éjecter d'un avion, si je me souviens
oui.
bien.
Oui, alors ça, on se connaissait... on allait se connaître, on allait se rencontrer juste
ah,
après.
D'accord.
À 28 ans, je m'éjecte et je passe très près de la mort. Et puis ensuite, je rentre donc chez Airbus... où pendant 17 ans, j'étais pilote d'essai, ce qui reste un métier dangereux aussi.
Oui. Alors, à Houston, vos premières impressions, parce qu'on imagine, effectivement, tel que vous le décrivez, j'imaginais Houston uniquement avec des machines, des appareils, des fusées. Mais en fait, vous parlez de la campagne, vous parlez du climat, vous parlez de la végétation, de la faune. On est complètement, j'imagine justement votre épouse arrivant enceinte de 7 mois dans un pays inconnu, un climat inconnu.
Très étrange.
C'est étrange.
Un climat très dur, hein, où on ne peut vivre qu'avec la climatisation. c'est 100% d'humidité, 40 degrés, les plus de 40 degrés l'été. Et c'est un pays sauvage. Dans le jardin de la maison, on trouvait des armadillos, on trouvait des tas de bêtes étranges qu'il me fallait de temps en temps capturer pour les emmener un peu plus loin.
Oui.
Je me souviens de serpents extrêmement venimeux, d'araignées aussi.
Tout
donc
aussi,
c'est
oui. 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 Alors, vous présentez le lieu comme la tour de Babel des astronautes. Alors, il y a quand même certainement une certaine solidarité. Et Georges Abbey, je pense à Downton Abbey, mais ça n'a rien à voir, directeur du site, qui vous dit « Celui qui marchera sur Mars est parmi vous ». C'est un choc, ça. Vous êtes déjà plongé dans le futur, pas si lointain, et dans l'espoir de quelque chose.
Effectivement. Et malheureusement, le temps passe, comme je pense il passera pour Thomas et pour Sophie Adnaud. Ces projets sont des projets de très longue haleine. Mais
et
effectivement,
vous êtes
à l'époque,
venu pour quoi faire, en fait?
Alors moi, on m'envoie parce que à l'époque, il y a un projet de coopération d'une petite navette entre la France et les États-Unis, mais je n'ai pas de vol attribué. Et c'est un peu plus tard, parce que je vais démontrer mes capacités à notamment sortir en scaphandre, en piscine et, comme disent les Américains, à faire le job, que je vais bénéficier d'un vol gratuit. C'est-à-dire que c'est un vol qui sera donné par les Américains, que la France n'aura jamais à payer, un vol absolument gratuit, un vol de l'amitié, on va dire, franco-américaine, qui me sera donné, mais à la fin du séjour.
D'accord. Alors, vous parlez du caractère américain, et écoutez, je pense que c'est très bien vu par rapport aux personnes que je connais, et encore, les gens qui viennent en France ne sont pas de même acabit que Trump.
Oui. Hein? Oui, ce sont les meilleurs qui viennent nous voir.
Oui, je crois, et qui ont la nostalgie de la France.
On doit bien les recevoir, d'ailleurs.
Mais je crois qu'en général, ils sont bien reçus. Oui. Alors, ces Américains-là ont une énorme confiance en eux. Rien n'est impossible. Ils sont hyper actifs. Et puis ce que vous dites, nous on dit bon, on fait ça, mais si ça marche pas, voyons ce qu'on pourra faire. Pour eux, ils n'envisagent pas que ça ne marchera pas.
Non, d'abord, et puis bon, l'échec fait partie est accepté, c'est ce que théorise aujourd'hui Elon Musk. Mais c'est vrai qu'il y a une force. J'ai longtemps souhaité être en capacité de ramener cette force des États-Unis en France. Et je ne sais pas si c'est possible. Mais c'est vrai qu'ils ont une capacité à faire. Tout est possible. C'est-à-dire qu'on pose une question, il n'y a jamais de non. Je donne une illustration, mais si vous rentrez en France et vous voulez acheter une paire de chaussures, vous la voyez en vitrine, et je voudrais cette paire de chaussures, on vous dit « Ah non, monsieur, c'est le modèle d'exposition, on ne le vend pas.
Oui. » Ah oui. Alors ça, oui, mais vous avez raison, parce que je suis allée plusieurs fois aux États-Unis, j'ai été frappée par la facilité d'abord des relations.
Oui.
Les gens sont fraternels quand
même.
Tout
est possible.
Oui, et tout est possible, effectivement. Et ça, c'est le côté sympathique. Alors après, il y a cette énorme confiance en soi qui peut gêner. Enfin, bon, maintenant, c'est vrai que nous sommes à l'heure où on sait que Trump va être président en janvier, on peut s'inquiéter. En tout cas, vous êtes soumis à un entraînement extrêmement épuisant, douloureux même parfois.
Oui, parce qu'on s'entraîne notamment beaucoup en piscine, et en piscine, on n'est pas en apesanteur. C'est-à-dire que le scaphandre flotte, mais l'astronaute, lui, il est pesant dans le scaphandre. Il y a par exemple beaucoup de phases où on est la tête en bas, donc vous avez tout le corps qui repose sur les épaules, des espèces de charnières métalliques sur les épaules. J'ai encore des protubérances osseuses, des points de friction. Le scaphandre est pressurisé.
Oui, des histoires de doigts.
Donc les doigts sont aussi bardés de petits bouts de métal, parfois qui rentrent dans les chairs, qui détruisent les nerfs. Enfin, c'est beaucoup.
Et vous aurez ça dans la navette aussi?
Et j'aurai ça. Alors, finalement, on souffre plus à l'entraînement qu'en vol.
D'accord.
J'aurai quelques petits désagréments en vol. Mais le scaphandre n'est pas une seconde peau. Le scaphandre, c'est une armure. C'est ce que je passe beaucoup de temps à décrire.
Oui.
C'est lourd et c'est une armure au sens où on va se retrouver dans un milieu très agressif où il n'y a pas d'air, où il y a des températures extrêmes et où il y a des risques de collision avec des micrométéorites, etc. Oui. Et donc, il faut une armure. Et cette armure, ce n'est pas encore une fois une seconde peau. D'ailleurs, chaque mouvement est contraint puisque ce n'est pas le corps qui bouge, mais un corps qui fait bouger un espèce de robot articulé.
Oui, c'est... Voilà, alors ça, vous le décrivez, et c'est vraiment... On a le sentiment d'y être, et vous dites qu'il faut gérer la fatigue, il faut gérer la pesanteur, et vous dites aussi que les facultés cognitives sont amoindries.
Alors ça, c'est un des grands tabous, finalement, on en parle assez peu.
Oui, 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 effectivement.
Parce que... parce qu'aucun astronaute n'est très fier, et les agences encore moins, d'expliquer qu'on peut perdre nos moyens. Mais ils sont perdus chez à peu près tous les astronautes, et de façon assez importante. On l'explique. Alors on l'explique parce que d'abord...
Problème d'oxygène.
On va être... probablement pas, mais vous êtes déjà soumis à des stress, l'oreille interne n'a plus ses références habituelles. Mais il y a aussi cette répartition des fluides qui va monter au cerveau, qui va créer une pression crânienne, une surpression crânienne, que certains universitaires ont comparé à des micro-traumatismes crâniens.
D'accord.
Donc on perd ses moyens, donc ça a été documenté par des tests de QI, et on sait que l'astronaute finalement est plus idiot là-haut que sur Terre.
Voilà, alors, bon, évidemment, vous n'avez pas été vraiment tenté d'abandonner, et nous ne vous abandonnons pas, non plus, si j'arrive à le dire, parce que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez encore plein de choses à nous raconter.
Avec un grand plaisir, Monique.
Merci.